à tous, je suis Guillaume du blog Santé des enfants et environnement qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain avec moins de pollution et plus de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais vous lire l'article « Plantes médicinales, un conseil de nos ancêtres non humains ». Cet article commence par une citation d'Emerson. Qu'est-ce donc qu'une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus ? Fin de citation. Il y a peu, nous sommes sortis en famille au Jardin des Plantes. Donc, le Jardin des Plantes, c'est un parc et un jardin botanique qui se trouve dans le 5e arrondissement de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, à proximité de la Seine et de la gare d'Austerlitz. Le jardin est le site principal du Muséum National d'Histoire Naturelle. On y trouve notamment de grandes serres contenant des plantes tropicales, la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, la galerie de botanique, la galerie de minéralogie et de géologie, et la grande galerie de l'évolution, où se tenait l'exposition qui s'appelait « Sur la piste des grands singes ». Donc vous le savez, si vous suivez les articles du blog, donc mes analyses s'appuient sur ce que j'appelle l'approche ancestrale. Selon cette approche, il n'y a pas eu suffisamment de temps et de pression de sélection pour que notre corps s'adapte complètement à un mode de vie très différent de celui de nos ancêtres préhistoriques. Certains chercheurs proposent que mimer le mode de vie de nos ancêtres dans notre monde moderne permettrait de favoriser un corps en bonne santé. Dans ce cadre, deux points de référence sont souvent proposés, le chasseur-cueilleur du paléolithique et le primate non humain. Notre dernier ancêtre commun avec les primates date d'environ 8 millions d'années. Cela peut être considéré comme relativement récent au regard de l'histoire de la vie sur Terre. Les organismes multicellulaires sont apparus il y a environ 1 milliard d'années, et de fait, nos gènes restent assez proches de ceux des primates non humains. Par exemple, selon les sources, chimpanzés et humains partagent entre 95% et 99% de leurs gènes. Parler d'approche évolutionniste ou d'approche ancestrale, plutôt que de la plus connue approche paléo, permet de désigner l'ensemble de notre héritage issu d'une lente évolution. Et l'influence de nos ancêtres primates non humains sur notre physiologie actuelle pourrait être significative, car la durée de leur présence sur Terre est plus grande que celle des humains. Les membres du genre Homo sont apparus il y a environ 2,5 millions d'années, alors que les primates sont apparus il y a 60 à 90 millions d'années. Au-delà du plaisir de la visite, l'exposition a été aussi pour moi l'occasion de mieux comprendre nos cousins non humains, et pourquoi pas d'en extraire une ou deux idées à expérimenter dans un objectif de santé. Des comportements de type culturel, non innés et appris des autres, ont été observés chez plusieurs grands singes, bonobos, chimpanzés, gorilles, orang-outans, etc. En particulier, concernant les chimpanzés, l'exposition indique que l'on peut observer des pratiques d'automédication. Les chimpanzés peuvent consommer des plantes dans un objectif thérapeutique. Ils n'ont pas fini de me surprendre, cela. Certains panneaux leur donnaient même le surnom de pharmacien de la forêt. Je trouve ça vraiment sympa comme surnom. La transmission culturelle de comportements alimentaires favorisant la santé, appris par expériences successives, est connue depuis plusieurs dizaines d'années. La capacité à l'automédication a été observée et confirmée plus récemment. Voici quelques illustrations de plantes que les chimpanzés peuvent utiliser pour se soigner, d'après les panneaux de l'exposition. Je cite « Lorsqu'ils se sentent faibles, les chimpanzés mangent parfois quelques feuilles de Trichilia rubescens. Je vais prononcer les noms latins comme je peux. Je reprends la citation au goût pourtant très amer. Elles contiennent des molécules très actives contre le paludisme. Les feuilles de ficus sont délicatement appliquées sur les plaies pour les désinfecter. » Toujours dans les citations lues sur les panneaux de l'exposition. « Pour se débarrasser de vers intestinaux, les chimpanzés ingurgitent à jeun et sans les mâcher des feuilles rugueuses d'Anélema aquinoctiale. Celle-ci accroche, tel un velcro, les parasites indésirables. Tout ça, c'est des citations. Donc, autre extrait de panneau de l'exposition. Tandis que les chimpanzés de Kanyawara ne mangent que les tiges d'Acanthus pubescens, ceux du Budongo avalent parfois ses fleurs. Ces tiges et fleurs possèdent des propriétés antibiotiques bien utiles pour lutter contre les infections. Cette différence de consommation suggère une transmission culturelle, car il s'agit de deux pratiques locales spécifiques. Vernonia amygdalina possède des vertus antiparasitaires. Dernier extrait, Albizia grandibractaeta est une espèce d'arbre dont les singes arrachent à grand-peine l'écorce avec les dents. Puis ils lèchent la résine ainsi découverte. Les analyses ont mis en évidence dans cette résine des molécules qui tuent les parasites, des saponocides. Les plantes choisies présentent des similitudes avec celles utilisées par la médecine africaine traditionnelle. Les chimpanzés apprennent à ingérer ces plantes lorsqu'ils sont malades, en observant dès l'enfance les adultes en train de se soigner. Ils sont ensuite capables de se soigner par eux-mêmes. Ils sont donc leurs propres pharmaciens et leurs propres médecins. Les chimpanzés ne se soignent qu'avec des plantes. Ils avalent parfois aussi de petites quantités de terre et d'argile. Cette consommation pourrait être associée à une neutralisation et une élimination de substances toxiques issues de plantes ingérées ou de micro-organismes intestinaux parasitaires. Elle pourrait également être associée à une synergie d'effets thérapeutiques lorsqu'elle accompagne la consommation de plantes médicinales. La consommation de terre argileuse fait également partie des pratiques thérapeutiques traditionnelles d'Afrique de l'Est. Il y a déjà plus de 140 ans, Darwin suggérait que les frontières entre les hommes et les animaux étaient floues et que l'on devrait plutôt parler d'une différence de degré plutôt qu'une différence de nature. Les résultats de la science moderne ont généralement confirmé cette hypothèse en démontrant la capacité des animaux à l'apprentissage, à l'utilisation d'outils, à l'empathie, à l'altruisme, à se reconnaître dans un miroir, à la chasse en groupe, à la transmission culturelle, etc. Leur capacité à consommer des plantes dans un objectif thérapeutique vient s'ajouter à cette déjà longue liste de capacités qui fait écho à ce qui est souvent considéré comme le propre des humains. Encore plus surprenant pour moi, les grands singes ne sont pas les seuls à avoir créé leur propre pharmacie. Les oiseaux, les abeilles, les lézards, les éléphants, les papillons, les fourmis, les mouches du vinaigre, etc., partagent avec les chimpanzés et les bonobos une caractéristique qui favorise leur survie, ils se soignent eux-mêmes. Ces soins peuvent notamment favoriser un processus de neutralisation et d'élimination, parasites, substances toxiques, etc. Cette grande variété d'espèces animales suggère que l'apprentissage n'est pas forcément nécessaire, que la capacité à l'automéducation peut être innée. Plusieurs espèces vont également au-delà de l'automédication. Ils ont été observés en train de soigner leurs petits et leurs proches. On peut donc même parler de médication. Ces observations me paraissent suggérer que l'utilisation de plantes médicinales pourrait être un moyen de soins bien adapté à notre espèce, utilisé depuis des millions d'années, notamment pour neutraliser et évacuer certaines substances toxiques ingérées. Les plantes pourraient-elles aider les enfants à neutraliser puis éliminer certains polluants environnementaux? C'est ce que je compte approfondir à l'occasion de prochains articles. Voilà, c'est la fin de cet article. Vous trouverez sur le blog, à la suite du texte, l'ensemble des références scientifiques sur lesquelles il s'appuie. Je complète par un retour d'expérience qui va être assez succinct sur cet aspect plante médicinale, puisque c'est C'est vraiment une thématique très nouvelle pour moi, que je connais encore très peu et que je pratique encore très peu. Ce qui se rapproche peut-être le plus de ma pratique, ce serait les plantes aromatiques que j'utilise en cuisine. Bon, je les utilisais principalement pour leur richesse en micronutriments. Mais de ce que je lis, sans avoir encore vraiment approfondi le sujet, ce que je crois comprendre, c'est que le gingembre, par exemple, que j'utilise, est très bon pour la sphère intestinale, que le persil, lui, a des bienfaits pour la sphère rénale, et puis que l'ail a des vertus antiparasitaires. Voilà, à confirmer. Au moment où je vous parle, je suis plutôt à l'état de... En tout cas, je considère ça comme une piste vraiment très intéressante et que je souhaite approfondir par la suite. Voilà, c'est la fin de ce podcast. S'il vous a plu et si vous pensez qu'il pourrait apporter des éléments intéressants à d'autres personnes, eh bien, je vous invite à lui donner une note sur iTunes et à y écrire votre avis. Voilà, merci beaucoup si vous faites ça, ça compte vraiment. Voilà, merci à vous, merci à Ronan Vernon pour la musique, merci à Yamoys pour les dessins. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast, et d'ici là, prenez bien soin de vos enfants.